Édouard Chouret, Les Grands Initiés, Livre 5, Orphée. Chapitre 2, Le Temple de Jupiter. Près des sources de l'Èbre s'élève le mont Caucaïon. D'épaisses forêts de chênes lui servent de ceinture. Un cercle de rochers et de pierres cyclopéennes le couronne. Depuis des milliers d'années, ce lieu est une montagne sainte. Les Pélages, les Celtes, les Scythes et les Jettes, se chassant les uns les autres, sont venus, tour à tour, y adorer leur dieu d'hiver. Mais n'est-ce pas toujours le même dieu que cherche l'homme quand il monte si haut? Sinon, pourquoi débâtirait-il si péniblement une demeure dans la région de la foudre et des vents? Un temple de Jupiter s'élève maintenant au centre de l'enceinte sacrée, massif, inabordable comme une forteresse. À l'entrée, un péristyle de 4 colonnes doriennes détache ses fûts énormes sur un portique sombre. Au zénith, le ciel est serein. Mais l'orage gronde encore sur les montagnes de la Thrace, qui déroulent au loin leurs vallées et leurs cimes, noir océan convulsé par la tempête et sillonné de lumière. C'est l'heure du sacrifice. Les prêtres de Caucaïon n'en font pas d'autre que celui du feu. Ils descendent les marches du temple et allument l'offrande de bois aromatique avec une torche du sanctuaire. Enfin, le pontife sort du temple. Vêtu de lin blanc comme les autres, il est couronné de myrte et de cyprès. Il porte un sceptre d'ébène à tête d'ivoire et une ceinture d'or où des cristaux jettent des feux sombres, symbole d'une royauté mystérieuse. C'est Orphée. Il conduit par la main un disciple, enfant de Delphes, qui, pâle, tremblant et ravi, attend les paroles du grand inspiré avec le frisson des mystères. Orphée le voit, et pour rassurer le myste élu de son cœur, il entoure doucement ses épaules de son bras. Ses yeux sourient, mais soudain ils flamboient. Et tandis qu'à leurs pieds les prêtres tournent autour de l'autel et chantent l'hymne du feu, Orphée solennellement dit au myste bien-aimé des paroles d'initiation qui tombent dans le fond de son cœur comme une liqueur divine. Or, voici les paroles ailées d'Orphée au jeune disciple. Replie-toi jusqu'au fond de toi-même pour t'élever au principe des choses, à la grande triade qui flamboie dans les terres immaculées. Consume ton corps par le feu de ta pensée. Détache-toi de la matière comme la flamme du bois qu'il dévore. Alors, ton esprit s'élancera dans le pur éther des causes éternelles, comme l'aigle au trône de Jupiter. Je vais te révéler le secret des mondes, l'âme de la nature, l'essence du Dieu. Écoute d'abord le grand arcane. Un seul être règne dans le ciel profond et dans l'abîme de la terre, Zeus tonnant, Zeus éthéré. Il est le conseil profond, la haine puissante et l'amour délicieux. Il règne dans la profondeur de la terre et dans la hauteur du ciel étoilé. Souffle des choses, feu indompté, mâle et femelle, un roi, un pouvoir, un dieu, un grand maître. Jupiter est l'époux et l'épouse divine, homme et femme, père et mère. De leur mariage sacré, de leurs noces éternelles, sortent incessamment le feu et l'eau, la terre et l'éther, la nuit et le jour, les fiers titans, les dieux immuables et la semence flottante des hommes. Les amours du ciel et de la terre ne sont pas connus des profanes, Les mystères de l'époux et de l'épouse ne sont dévoilés qu'aux hommes divins. Mais je veux déclarer ce qui est vrai. Tout à l'heure, le tonnerre ébranlait ces rochers, la foudre y tombait comme un feu vivant, une flamme roulante, et les échos des montagnes en mugissaient de joie. Mais toi tu tremblais, ne sachant d'où vient ce feu, ni où il frappe. C'est le feu mâle, semence de Zeus, le feu créateur. Il sort du cœur et du cerveau de Jupiter. Il s'agite dans tous les êtres. Quand tombe la foudre, il jaillit de sa droite. Mais nous, ses prêtres, nous savons son essence, nous évitons et quelquefois nous dirigeons ses traits. Et maintenant, regarde le firmament. Vois ce cercle brillant de constellations sur lequel est jetée l'écharpe légère de la Voie lactée, poussière de soleils et de mondes. Vois flamboyer Orion, scintiller les Gémeaux et resplendir la Lyre. C'est le corps de l'épouse divine qui tourne dans un vertige harmonieux sous les champs de l'époux. Regarde avec les yeux de l'esprit et tu verras sa tête renversée, ses bras étendus, et tu soulèveras son voile semé d'étoiles. Jupiter est l'époux et l'épouse divine. Voilà le premier mystère. Mais maintenant, enfant de Delphes, prépare-toi à la seconde initiation. Frissonne, pleure, jouis, adore. Car ton esprit va plonger dans la zone brûlante où le grand démiurge fait le mélange de l'âme et du monde dans la coupe de la vie. En s'abreuvant à cette coupe enivrante, tous les êtres oublient le divin séjour et descendent dans l'abîme douloureux des générations. Zeus est le grand démiurge. Dionysos est son fils, son verbe manifesté. Dionysos, esprit radieux, vivante intelligence, resplendissait aux demeures de son père, au palais de l'éther immuable. Un jour que, penché, il contemplait les abîmes du ciel à travers les constellations, il vit, reflété dans la bleue profondeur, sa propre image qui lui tendait les bras. Épris de ce beau fantôme, amoureux de son double, il se précipita pour le saisir. Mais l'image fuyait, fuyait toujours. Enfin, il se trouva dans une vallée ombreuse et parfumée, jouissant des brises voluptueuses qui caressaient son corps. Dans une grotte, il aperçut Perséphone. Maya, la belle tisseuse, tissait un voile où l'on voyait ondoyer les images de tous les êtres. Devant la Vierge divine, il s'arrêta, muet de ravissement. À ce moment, les fiers titans, les libres titanides l'aperçurent. Les premiers jaloux de sa beauté, les autres éprises d'un fol amour, se jetèrent sur lui comme les éléments furieux et le mirent en pièces. Puis, s'étant distribué ses membres, ils les firent bouillir dans l'eau et enterrèrent son cœur. Jupiter foudroya les titans et Minerve remporta dans les terres le cœur de Dionysos. Il y devint un soleil ardent. Mais de la fumée du corps de Dionysos sont sorties les âmes des hommes qui remontent vers le ciel. Quand les pâles ombres auront rejoint le cœur flamboyant du dieu, elles s'allumeront comme des flammes, et Dionysos tout entier ressuscitera, plus vivant que jamais, dans les hauteurs de l'Empyrée. Voilà le mystère de la mort de Dionysos. Maintenant, écoute celui de sa résurrection. Les hommes sont la chair et le sang de Dionysos. Les hommes malheureux sont les membres épars qui se cherchent en se tordant dans le crime et la haine, dans la douleur et l'amour, à travers les milliers d'existences. La chaleur ignée de la terre, l'abîme des forces d'en bas, les attire toujours plus avant dans le gouffre, les déchire toujours davantage. Mais nous, les initiés, nous qui savons ce qui est en haut et ce qui est en bas, nous sommes les sauveurs des âmes, les Hermès des hommes. Comme des aimants, nous les attirons à nous, attirés nous-mêmes par les dieux. Ainsi, par de célestes incantations, nous reconstituons le corps vivant de la divinité. Nous faisons pleurer le ciel et jubiler la terre. Et, comme de précieux joyaux, nous portons dans nos cœurs les larmes de tous les êtres pour les changer en sourires. Dieu meurt en nous il renaît. Ainsi parla Orphée. Le disciple de Delphes s'agenouilla devant son maître, les bras levés avec le geste des suppliants. Et le pontife de Jupiter étendit sa main sur sa tête en prononçant ces paroles de consécration. Que Zeus ineffable et Dionysos, trois fois révélateurs, dans les enfers, sur la terre et dans le ciel, soient propices à ta jeunesse, et qu'ils versent dans ton cœur la science des dieux. Alors, l'initié, quittant le péristyle du temple, alla jeter du styrax dans le feu de l'autel, et invoqua trois fois Zeus tonnant. Les prêtres tournèrent en cercle autour de lui en chantant un hymne. Le pontife roi était resté pensif sous le portique, le bras appuyé sur une stèle. Le disciple revint à lui. Mélodieux Orphée, dit-il, fils aimé des immortels et doux médecin des âmes, depuis le jour où je t'ai entendu chanter les hymnes des dieux à la fête de l'Apollon delphien, tu as ravi mon cœur et je t'ai suivi partout. Tes chants sont comme un vin qui enivre, tes enseignements comme un breuvage amer qui soulage le corps accablé et répand dans ses membres une force nouvelle. Il est âpre le chemin qui mène dès ici-bas aux dieux, dit Orphée. Il semblait répondre à des voix intérieures plutôt qu'à son disciple. Un sentier fleuri, une pente escarpée, et puis des rochers hantés par la foudre avec l'espace immense autour. Voilà le destin du voyant et du prophète sur la terre. Mon enfant, reste dans les sentiers fleuris de la plaine et ne cherche pas au-delà. Ma soif augmente à mesure que tu la désaltères, dit le jeune initié. Tu m'as instruit de l'essence des dieux. Mais dis-moi, grand maître des mystères, inspiré du divin Eros, pourrais-je les voir jamais? Avec les yeux de l'esprit, dit le pontife de Jupiter, mais non avec ceux du corps. Or, tu ne sais voir encore qu'avec ceux-ci. Il faut un long travail ou de grandes douleurs pour ouvrir les yeux du dedans. Toi seul sais les ouvrir, Orphée. Avec toi, que puis-je craindre? Tu le veux? Écoute donc. En Thessalie, dans le Val enchanté de Tempé, s'élève un temple mystique, fermé aux profanes. C'est là que Dionysos se manifeste aux mystes et aux voyants. Dans un an, je te convie à sa fête, et, te plongeant dans un sommeil magique, j'ouvrirai tes yeux sur le monde divin. Que, jusque-là, ta vie soit chaste et blanche ton âme. Car, sache que la lumière des dieux épouvante les faibles et tue les profanateurs. Mais, viens dans ma demeure, je te donnerai le livre nécessaire à ta préparation. Le maître rentra avec le disciple delphien dans l'intérieur du temple et le conduisit dans la grande cella qui lui était réservée. Là brûlait une lampe égyptienne toujours allumée que tenait un génie ailé en métal forgé. Là étaient renfermés dans des coffres de cèdre odorant de nombreux rouleaux de papyrus, couverts de hiéroglyphes égyptiens et de caractères phéniciens, ainsi que les livres écrits en langue grecque par Orphée et qui renfermaient sa science magique et sa doctrine secrète. Le maître et le disciple s'entretinrent dans la cella pendant une partie de la nuit. Chapitre 3. Fête dionysiaque dans la vallée de Tempé. C'était en Thessalie, dans la fraîche vallée de Tempé. La nuit sainte, consacrée par Orphée au mystère de Dionysios, était venue. Conduit par un des serviteurs du temple, le disciple de Delphes marchait dans une gorge étroite et profonde, bordée par des rochers à pic. On entendait dans la nuit sombre que le murmure du fleuve qui coulait entre ses rives de verdure. Enfin, la pleine lune se montra derrière une montagne. Son disque jaune sortit de la chevelure noire des rochers. Sa lumière subtile et magnétique glissa dans les profondeurs. Et tout à coup, la vallée enchanteresse apparut dans une clarté élyséenne. Un instant, elle se dévoila tout entière avec ses fonds gazonnés, ses bosquets de frênes et de peupliers, ses sources cristallines, ses grottes voilées de lierres retombants et son fleuve sinueux, enlaçant des îles d'arbres ou roulant sous des berceaux entrelacés. Une blonde vapeur, un sommeil voluptueux enveloppait les plantes. Des soupirs de nymphes semblaient faire palpiter le miroir des sources et de vagues sons de flûte s'échappaient des roseaux immobiles. Sur toute chose planait la silencieuse incantation de Diane. Le disciple de Delphes cheminait comme dans un rêve. Il s'arrêtait quelquefois pour respirer une délicieuse odeur de chèvrefeuille et de laurier amer. Mais la clarté magique ne dura qu'un instant. La lune se couvrit d'un nuage. Tout redevint noir. Les rochers reprirent leur forme menaçante et des lumières errantes brillèrent de tous côtés sous l'épaisseur des arbres, au bord du fleuve et dans les profondeurs de la vallée. « Ce sont les mystes, » dit le guide âgé du temple. « Ils se mettent en marche. » Chaque cortège a son guide porte-flambeau. Nous allons les suivre. Les voyageurs rencontrèrent des chœurs sortant des bosquets qui se mettaient en route. Ils virent passer d'abord les mystes du jeune Bacchus, adolescent vêtu de longues tuniques de lin fin et couronné de lierre. Il portait des coupes de bois ciselées, symbole de la coupe de la vie. Puis, vinrent des jeunes hommes, fiers et vigoureux. Ils s'appelaient les mystes d'Hercule Luther. Tuniques courtes, jambes nues, la peau de lion en travers des épaules et des reins, des couronnes d'olivier sur la tête. Puis vinrent les inspirés, les mystes de Bacchus déchiré, la peau zébrée de la panthère autour du corps, des bandelettes de pourpre dans les cheveux, le tirse en main. Passant près d'une caverne, ils virent, prosternés à terre, les mystes d'Aïdonée et d'Héros souterrain. C'étaient des hommes pleurant des parents ou des amis morts. Ils chantaient à voix basse, « Aïdonée, Aïdonée, rends-nous ce que tu nous as pris, ou fais-nous descendre dans ton royaume. » Le vent s'engouffrait dans la caverne et semblait se prolonger sous terre avec des rires et des hoquets funèbres. Soudain, un myste se retourna vers le disciple de Delphes et lui dit « Tu as franchi le seuil d'Aïdonée, tu ne reverras pas la lumière des vivants. » Un autre le frôla en passant et lui jeta ces mots dans l'oreille. « Ombre, tu seras la proie de l'ombre. Toi qui viens de la nuit, retourne dans les rêves. » Et il s'enfuit en courant. Le disciple de Delphes se sentit glacé d'effroi. Il chuchota à son guide. « Qu'est-ce que cela veut dire ? Le serviteur du temple parut n'avoir rien entendu. Il dit seulement « Il faut passer le pont, personne n'évite l'obus. » Ils traversèrent un pont de bois jeté sur le pays. « D'où viennent, dit le néophyte, ces voix plaintives et cette mélopée lamentable ? Qui sont ces ombres blanches qui marchent en longues files sous les peupliers ? Ce sont des femmes qui vont s'initier au mystère de Dionysos. Sais-tu leur nom ? Ici, personne ne sait le nom de personne, et chacun oublie le sien. Car de même qu'à l'entrée du domaine consacré, les mystes laissent leurs vêtements souillés pour se baigner dans le fleuve et revêtir de pures robes de lin, de même, chacun quitte son nom pour en prendre un autre. Pour cette nuit et pour 7 jours, on se transforme, on passe dans une autre vie. Regarde toutes ces théories de femmes. Elles ne sont pas groupées d'après leur famille et leur patrie, mais d'après le Dieu qui les inspire. Ils virent défiler des jeunes filles couronnées de narcisses en péplos azuré que le guide appelait les nymphes compagnes de Perséphone. Elles portaient chastement enlacées dans leurs bras des coffrets, des urnes, des vases votifs. Puis venaient en péplos rouge les amantes mystiques, les épouses ardentes et les chercheuses d'Aphrodite. Elles s'enfoncèrent dans un bois noir. De là, on entendit sortir des appels violents, mêlés à des sanglots alanguis. Ils s'apaisèrent peu à peu. Puis, un cœur passionné s'éleva du sombre bosquet de myrte et monta vers le ciel en palpitations lentes. « Eros, tu nous as blessés. Aphrodite, tu as brisé nos membres. Nous avons couvert notre sein avec la peau du faon, mais nous portons dans nos poitrines la pourpre sanglante de nos blessures. Notre cœur est un brasier dévorant. D'autres meurent de pauvreté, c'est l'amour qui nous consume. Dévore-nous, Eros, Eros, ou délivre-nous, Dionysos, Dionysos. » Une autre théorie avança. Ces femmes étaient complètement vêtues de laine noire, avec de longs voiles traînant derrière elles, et toutes étaient affligées de quelque grand deuil. Le guide les nomma, les éplorées de Perséphone. À cet endroit se trouvait un grand mausolée de marbre revêtu de lierre. Elles s'agenouillèrent autour, dénouèrent leurs cheveux et poussèrent de grands cris. À la strophe du désir, elles répondirent par l'antistrophe de la douleur. « Perséphone, disait-elle, tu es morte, enlevée par Aïdonée. Tu es descendue dans l'empire des morts. Mais nous, qui pleurons le bien-aimé, nous sommes des mortes vivantes. Que le jour ne renaisse pas, que la terre qui te recouvre, ô grande déesse, nous donne le sommeil éternel, et que mon ombre erre enlacée à l'ombre chérie. Exauce-nous, Perséphone, Perséphone. » Devant ces scènes étranges, sous le délire contagieux de ces douleurs profondes, le disciple de Delphes se sentit envahi par 1000 sensations contraires et torturantes. Il n'était plus lui-même. Les désirs, les pensées, les agonies de tous ses êtres étaient devenus ses désirs et ses agonies. Son âme se morcelait pour passer dans 1000 corps. Une angoisse mortelle le pénétrait. Il ne savait plus s'il était homme ou ombre. Alors, un initié de haute taille qui passait par là s'arrêta et dit « Paix aux ombres affligées, femmes souffrantes, aspirez à la lumière de Dionysos. Orphée vous attend. » Toutes l'entourèrent en silence, en effeuillant devant lui leur couronne d'asphodèle, et de son tirse il leur montra le chemin. Les femmes allèrent boire à une source dans des coupes de bois. Les théories se reformèrent et le cortège se remit en marche. Des jeunes filles avaient pris les devants. Elles chantaient un sren avec ce refrain. Agitez les pavots, buvez l'onde du l'été, donne-nous la fleur désirée, et que pour nos sœurs le narcisse refleurisse. Perséphone, Perséphone. Le disciple marcha longtemps encore avec son guide. Il traversa des prairies où poussait l'asphodèle. Il marcha sous l'ombre des peupliers au murmure triste. Il entendit des chants lugubres qui glissaient dans l'air et venaient, il ne savait d'où. Il vit suspendus à des arbres des masques horribles et des figurines de cire comme des enfants emmaillotés. Ça et là, des barques traversaient le fleuve avec des gens silencieux comme des morts. Enfin, la vallée s'élargit. Le ciel devint clair sur les hautes montagnes et l'aurore parut. Au loin, on apercevait les gorges sombres de l'Ossa, sillonnées d'abîmes où s'entassent les roches écroulées. Plus près, au milieu d'un cirque de montagnes, brillait sur une colline boisée le temple de Dionysos. Déjà, le soleil dorait les hautes cimes. À mesure qu'ils se rapprochèrent du temple, ils virent arriver de toutes parts des cortèges de mystes, des théories de femmes, des groupes d'initiés. Cette foule grave en apparence, mais intérieurement agitée par une attente tumultueuse, se rencontra au pied de la colline et gravit les abords du sanctuaire. Tous se saluaient comme des amis, agitant les rameaux et les pierces. Le guide avait disparu, et le disciple de Delphes se trouva, il ne sut comment, dans un groupe d'initiés aux cheveux brillants, entrelacés de couronnes et de bandelettes de diverses couleurs. Il ne les avait jamais vus et cependant, il croyait les reconnaître, par un ressouvenir plein de félicité. Eux aussi semblaient l'attendre, car il le saluait comme un frère et le félicitait de son heureuse arrivée. Entraîné par son groupe et comme porté sur des ailes, il monta jusqu'aux plus hautes marches du temple, lorsqu'un trait de lumière aveuglante entra dans ses yeux. C'était le soleil levant qui lançait sa première flèche dans la vallée et inondait de ses rayons éclatants ce peuple de mystes et d'initiés, groupés sur l'escalier du temple et sur toute la colline. Aussitôt, un chœur entonna le péan. Les portes de bronze du temple s'ouvrirent d'elles-mêmes. Et suivi de l'Hermès et du porte-flambeau, parut le prophète, l'hiéropante, Orphée. Le disciple de Delphes le reconnut avec un frémissement de joie. Vêtu de pourpre, sa lyre d'ivoire et d'or à la main, Orphée rayonnait d'une jeunesse éternelle. Il dit « Salut à vous tous, qui êtes venus pour renaître après les douleurs de la terre, et qui renaissez en ce moment. Venez boire la lumière du temple, vous qui sortez de la nuit, mystes, femmes, initiées. Venez vous réjouir, vous qui avez souffert. Venez vous reposer, vous qui avez lutté. Le soleil que j'évoque sur vos têtes et qui va briller dans vos âmes n'est pas le soleil des mortels. C'est la pure lumière de Dionysos, le grand soleil des initiés. Par vos souffrances passées, par l'effort qui vous amène, vous vaincrez. Et si vous croyez aux paroles divines, vous avez déjà vaincu. Car après le long circuit des existences ténébreuses, vous sortirez enfin du cercle douloureux des générations. Et tous, vous vous retrouverez comme un seul corps, comme une seule âme, dans la lumière de Dionysos. L'étincelle divine qui nous guide sur terre est en nous. Elle devient flambeau dans le temple, étoile dans le ciel. Ainsi grandit la lumière de la vérité. Écoutez vibrer la lyre aux sept cordes, la lyre du Dieu. Elle fait mouvoir les mondes. Écoutez bien, que le son vous traverse et s'ouvriront les profondeurs des cieux. Secours aux faibles, consolation aux souffrants, espérance à tous. Mais malheur aux méchants, aux profanes, ils seront confondus. Car dans l'extase des mystères, chacun voit jusqu'au fond de l'âme de l'autre. Les méchants y sont frappés de terreur, les profanateurs de mort. Et maintenant que Dionysos a libéré sur vous, j'invoque Eros, céleste et tout-puissant, qu'il soit dans vos amours, dans vos pleurs, dans vos joies. Aimez, car tout aime, les démons de l'abîme et les dieux de l'éther. Aimez, car tout aime, mais aimez la lumière et non les ténèbres. Souvenez-vous du but pendant le voyage. Quand les âmes retournent dans la lumière, elles portent comme des taches hideuses sur leur corps sidéral toutes les fautes de leur vie. Et pour les effacer, il faut qu'elles expient et qu'elles reviennent sur la terre. Mais les purs, mais les forts, s'en vont dans le soleil de Dionysos. Et maintenant, chantez les voées. Évoé, crièrent les héros aux quatre coins du temple. Évoé, et les cymbales retentirent. Évoé, répondit l'assemblée enthousiaste, groupée sur les marches du sanctuaire. Et le cri de Dionysos, l'appel sacré à la renaissance, à la vie, roula dans la vallée, répété par mille poitrines, renvoyé par tous les échos des montagnes. Et les pâtres des gorges sauvages de l'Ossa, suspendus avec leurs troupeaux le long des forêts, près des nuages, répondirent « Évoé !»